Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
C'est la grogne du jour. Les cheminots anglais sont en grève depuis hier. Ils devraient bientôt être rejoints par les employés des ports, les facteurs, les éboueurs et même le secteur public de la santé dans les semaines à venir. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a moins de grèves souvent en Angleterre, mais quand elles sont là, elles sont massives. Celles-là s'annoncent inédites, en cause, Mao, comme chez nous, hein, l'explosion des prix.
Alors c'est vrai qu'en Angleterre, l'inflation est particulièrement importante cette année. Les prix ont augmenté de 10,1% sur un an, un niveau jamais vu au Royaume-Uni depuis 40 ans. Et cette situation ne va pas s'améliorer dans les semaines à venir. L'inflation pourrait monter jusqu'à 13% puisqu'il est prévu que les tarifs de l'énergie augmentent également. Tous les prix s'envolent. Les produits laitiers, la viande, la boulangerie, mais aussi le papier toilette, les déodorants. Enfin, ce qu'on achète tous les jours. Conséquence, les plus fragiles souffrent et la situation se tend dans le pays. Des grèves voient le jour. Ça a commencé fin juin avec d'abord une grève massive des cheminots. Puis ça a continué au cours de l'été. Cette semaine, vous l'avez dit Rémi, les débriefs ont eu lieu dans les transports, mais aussi dans les instances judiciaires, à la poste. Les syndicalistes évoquent un été du mécontentement, référence non cachée à l'hiver du mécontentement de 1978-1979, un hiver où 13 millions de grévistes avaient mis le Royaume-Uni à l'arrêt pour protester déjà à l'époque contre l'inflation, jusqu'à, on le sait, l'arrivée ensuite au pouvoir de Margaret Thatcher, qui, avec sa main de fer, avait mis fin au mouvement. Hier, un train sur cinq circulait au Royaume-Uni et les syndicats n'arrêtent pas tant qu'il n'y aura pas un accord en leur faveur, explique-t-il. La rentrée des classes aussi devrait être touchée. Alors voilà, la question elle est simple. Est-ce que face à la crise du pouvoir d'achat, la même situation est possible en France ?
Exactement, grève historique donc, comme le dit Mao, en Angleterre contre la vie chère. Est-ce que vous croyez à la même chose en France ? Vous nous appelez évidemment au 32-16. Pierre Rondeau, est-ce que tu y crois ?
On peut bien évidemment s'y attendre, en tout cas l'imaginer. Il y a un élément qui est très intéressant quand on étudie un peu les indicateurs macroéconomiques et qu'on fait le comparatif entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France. C'est pas uniquement l'inflation. On sait que l'inflation en Angleterre est plus importante, 10% et peut-être même 13% d'ici la fin de l'année, alors qu'en France on a ce bouclier tarifaire, on ne cesse de le répéter, qui permet de juguler, de contrôler, de ralentir l'inflation.
Enfin, je vais pas dire de bêtises, on est quand même à 7%.
On est à 5,6%, ouais, alors que la moyenne de la zone euro c'est 7%. En deçà de la moyenne. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est le fait de dire que, contrairement à l'Angleterre ou même à tous les autres pays européens, la France parvient à contrôler cette inflation, donc à ralentir une espèce d'une explosion sociale.
Jusqu'à quand?
Mais attention, parce qu'il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération. C'est un indicateur qui est construit par l'OCDE, une organisation qui regroupe tous les pays développés, qui là ne prend pas l'inflation, mais prend le revenu réel. Donc intègre à la fois l'évolution des salaires, de l'ensemble des salaires issus du travail ou de la redistribution, et qui l'associe au niveau d'inflation. Et la France est le pays de l'OCDE qui connaît la baisse du revenu réel la plus importante, moins 1,9%, alors que par exemple, si je prends l'Angleterre, on est à moins 0,2%. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est aux alentours de 1% de baisse. Donc, on a l'Angleterre qui explose, alors que, si je peux nuancer quelque peu la chose, alors que la baisse du revenu disponible réel n'est que de 0,2%. La France, contrairement à l'Angleterre, connaît une baisse de 1,9%, la plus élevée.
T'as beaucoup de chiffres, là. Hein.
Les plus élevés, enfin, la plus élevée des pays de l'OCDE. Donc, souffre beaucoup plus que tous les autres, beaucoup plus que tous les autres pays européens et que tous les autres pays occidentaux. Donc, pour conclure, on devrait, en toute théorie, s'attendre à ce que, d'ici la rentrée prochaine, on ait une explosion des mouvements sociaux.
Ouais.
Si je fais le comparatif avec l'Angleterre.
Thierry Moreau, est-ce que tu crois, Thierry, à une explosion sociale en France ?
Alors, je pense que comparaison n'est pas raison. Alors, effectivement, pour toutes les raisons que tu as données, il y a effectivement un risque d'explosion à la rentrée pour d'autres raisons que l'inflation, tu l'as expliqué. Mais il faut bien comprendre qu'en Angleterre, il y a un effet cocotte-minute très important. La liberté syndicale en Angleterre, elle a été mise à mal par Margaret Thatcher en 84, 85, 86. Je rappelle quand même, comme l'expliquait Mao, qu'elle a tenu une grève pendant plus d'un an d'un an de grève dans certains secteurs, notamment dans le secteur minier, ce qui aboutit à une restriction du droit de grève qui fait que, par exemple, il faut que faut faire un vote au sein de ton syndicat pour que la grève puisse être effective. Et Cameron a durci cette loi, il faut qu'il y ait un minimum de 50% de participation. Deuxième chose, tu n'as pas le droit de faire de grève de solidarité, c'est-à-dire que les enseignants ne peuvent pas faire de grève pour soutenir. Ouais, mais
alors justement, regarde ce qui se passe là aujourd'hui en Angleterre, il y a un mouvement un mouvement de grève massif. En France, c'est beaucoup plus simple, je caricature, mais c'est beaucoup plus simple de faire grève. Alors pourquoi ça n'arrivera pas chez nous?
Alors, je continue. Effet cocotte minute en Angleterre qui fait qu'à un moment, ça explose. Et là, on s'aperçoit, et même les syndicats semblent un peu dépassés, c'est la population. Il y a des grèves sauvages.
Absolument.
C'est-à-dire que ce sont, j'allais dire, c'est un mouvement des gilets jaunes. J'en sais rien s'il va s'appeler les gilets jaunes. En tout cas, c'est la population qui est dans la rue et qui manifeste.
Les yellow gilets.
Chez nous, c'est un peu différent parce qu'il y a une régulation qui se fait quand même. Alors, on se plaint ici souvent que le dialogue social n'est pas assez important en France, mais il est quand même au moins un peu plus évolué qu'en Angleterre. Et je parle sous le contrôle de Pierre Rondeau. Donc, je ne crois pas que ça arrivera sous cette forme-là à la rentrée en France, même si, évidemment, il y a des risques d'explosion.
Emmanuel Dancourt.
Alors, pour continuer sur la lancée de mes camarades, moi, je crois à une rentrée sociale en France, mais pas de cette intensité-là, pour tout un tas de raisons, parce que, outre les chiffres que j'ai trouvé très intéressants que Pierre a donné et le rappel historique que tu nous fais, Thierry, il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le Brexit, et que jusqu'ici, enfin, jusqu'il y a encore assez peu de temps, finalement, l'Europe, enfin, la Grande-Bretagne était, a bénéficié du fait d'être membre de l'Europe, a bénéficié de sa forte attractivité, a bénéficié de beaucoup d'immigration. D'immigration avec des ouvriers finalement peu chers et qui se plaignaient pas parce qu'ils étaient déjà bien contents d'être arrivés en Grande-Bretagne. C'était une place financière extrêmement forte aussi, avec des retombées dans toute l'économie. Et puis Boris Johnson qui n'est plus là, Boris Johnson qui impose le Brexit à tout ce pays. Et puis ce pays, il a subi comme nous le Covid, les confinements. Il subit comme nous la peur de la guerre en Ukraine. Donc l'effet cocotte minute, je pense qu'il est encore plus amplifié, Thierry, au-delà de tout ce que tu as dit, parce qu'il se passe actuellement, on sait toujours pas qui sera le remplaçant de Boris Johnson. Sa bataille dure. Il y a une espèce d'insécurité en Grande-Bretagne complètement hallucinante. Et comme Pierre le rappelait, eux, ils ont pas de plafond qui les protège, notamment sur les prix de l'énergie qui ont totalement augmenté, qui ont totalement explosé. Et je pense qu'ils sont dans un état de crise où nous, on n'est pas. Et c'est vrai que notre inflation est plus basse que la leur. D'ailleurs, on a l'inflation la plus basse de l'Europe. Et qui fait que. Et puis nous, on, la cocotte minute, elle pète régulièrement. Hein. On a des rentrées sociales tous les ans.
C'est pas parce qu'elle est plus basse qu'ailleurs en Europe que tous les jours. On nous appelle pas au 32-16 pour nous dire on n'en peut plus. Hein.
Oui, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe en Angleterre. Si c'était les Anglais qui nous appellent,
on est d'accord, mais tu peux beaucoup souffrir et souffrir.
Je suis désolé, mais l'argument de dire qu'en France, au moins, on a ce bouclier tarifaire qui permet d'avoir une inflation beaucoup plus basse que tous les autres pays de la zone euro, encore une fois, il faut la contrebalancer avec l'évolution du revenu. Qu'on ait une inflation contrôlée, très bien, mais si derrière, le revenu n'augmente pas, eh bien, on a mécaniquement une baisse du pouvoir d'achat.
Ah oui. Philippe est avec nous au 32-16. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Est à Chevroux, c'est dans l'Ain.
Oui.
C'est près de
où? Je suis pas Chevroux.
D'accord.
Je suis en vacances à côté de d'Arcachon.
D'accord.
Il y a 8 jours, je vous aurais appelé, j'aurais peut-être pas dit la même chose.
Ah bah dites-nous alors. Aujourd'hui, vous nous dites quoi?
Aujourd'hui, je dis qu'il va falloir vite se réveiller et puis descendre chercher ce qu'on a droit dans la rue.
Alors pourquoi il y a 8 jours, vous n'auriez pas dit la même chose? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 jours?
Ben là, vous allez vous promener sur les sites comme Arcachon, Cap Ferret, tout ça et tout, et là, ça pue le pognon à plein nez. Il y a du fric autant qu'un curé peut en bénir, donc l'argent, il y en a en France, sauf qu'il est tout au même endroit. Donc il va falloir aller le chercher, autrement on n'aura jamais rien.
Soyons clairs, Philippe, il est où ce pognon, tout au même endroit, dans quelle poche?
Ben dans les poches de ceux qu'on avait déjà.
Ceux qui sont pas nouveau, ça.
Ben oui, mais on dit rien, nous, les Français. Il faut pas compter sur les syndicats pour se réveiller. Ce sont des endormis. Là, ils sont tous en vacances.
Mais
c'est à nous d'aller chercher des choses de nous-mêmes, si on en veut.
Quand vous voyez cet argent à Arcachon, il est dépensé, cet argent. Donc, il réintègre l'économie. Il rentre dans l'économie.
Oui,
il crée des emplois.
J'aurais pu intervenir sur deux sujets aujourd'hui, sur le chef de cuisine. Quand je vois les menus affichés dans les restaurants sur Arcachon, tout ça et tout, c'est du foutage de gueule, les tarifs. Et les Français sont encore assez cons pour se faire avoir. Mais qui continue? Ils devraient mettre les menus à 50 balles.
Philippe, restez avec nous. J'aimerais vous faire dialoguer avec Fabrice Angéi qui nous rejoint. Bonjour Fabrice Angéi.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi et sur RMC. Vous entendez le coup de colère Il est court, mais
ah
efficace.
Oui, mais on le partage, de Philippe.
Bah oui, mais il dit que,
il dit aussi. Fabrice
Angély, il dit aussi que les syndicats sont endormis. Hein.
Non, mais j'avais anticipé, vous voyez, j'avais écouté attentivement vos auditeurs et votre intervention. Moi, je rappelle tout simplement que la CGT, bien avant la loi pouvoir d'achat, hein, le paquet pouvoir d'achat, on avait, compte tenu de la situation, décidé d'une journée de grève, donc d'un processus de grève qui démarre par une journée le 29 septembre. Donc ça, c'était avant les vacances. Et malheureusement, la situation conforte et légitime cette nécessité d'un mouvement. Et nous n'avons pas rien fait. On s'est déployé auprès des saisonniers, on a fait des initiatives sur le Tour de France. Il y a énormément d'entreprises en lutte aujourd'hui sur lesquelles nous sommes. Je vais prendre une petite entreprise de la région.
Oui, Philippe, bien sûr, Philippe.
Je vais reprendre la parole après, je vais laisser intervenir.
Oui, non, mais Fabrice Angély, vous restez évidemment avec nous, mais Philippe veut intervenir. Oui.
Ce monsieur représente-t-il la CGT ?
Oui.
Oui.
Voilà. Donc, que ce soit vous ou FO ou tous les autres, on ne vous voit dans nos entreprises, moi je suis fonctionnaire, uniquement juste avant les élections. Après, vous allez dormir dans vos bureaux là-bas, je ne sais pas ce que vous foutez, mais en attendant, vous ne défendez personne. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de représentants d'ouvriers qui sont syndiqués aujourd'hui. Vous ne pensez qu'à vous. Vous faites un peu comme les politiciens. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de syndiqués, c'est totalement de votre faute.
Oui, j'entends. Écoutez, les situations peuvent être variables. Moi, ce que je vois, c'est que globalement, le nombre de syndiqués augmente. Le nombre de conflits sociaux, notamment autour de la question des salaires, augmente aussi, que les syndicats dans la CGT sont présents. Je prenais donc une entreprise de travaux publics de la région PACA, donc pour rester dans la région Azur Travaux, pour pas la nommer, où les salariés, pour leur première fois de leur vie, se sont mis en grève, ont rejoint la CGT, notamment pour des questions d'augmentation salariale.
Mais il y a quand même partout. Excusez-moi, mais il y a quand même bien un problème. Et il y a quand même bien un problème en France du taux de syndicalisation qui est assez faible. Comment vous, aujourd'hui, face d'un côté à cette colère sociale et de l'autre côté à votre histoire syndicale qui fait que de moins en moins de gens se syndiquent, quelle solution vous proposez pour dire oui, on va prendre en compte vos colères et oui, on va favoriser le taux de syndicalisation? Comment vous résolvez cette équation compliquée?
D'une part, aujourd'hui, le taux de syndicalisation, tout le monde peut regretter qu'il soit aussi bas, mais ça tient d'autres considérations, notamment sur la répression patronale, etc.
C'est
donc
pas de votre faute.
Développer ce sujet-là. Je dis qu'on a affaire pour être au contact de tous les salariés. Je ne dis pas que ce n'est pas notre faute, mais je dis qu'il y a d'autres éléments. Néanmoins, moi, je constate, du moins pour notre organisation, que le taux de syndicalisation repart à la hausse en 2022. On a regardé les chiffres récemment, et donc on est en plus de syndiqués de date à date. Que beaucoup de salariés rejoignent la CGT et beaucoup se mettent en lutte.
Alors,
c'est une constante dans notre pays, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a un taux de syndicalisation plus faible que notre pays.
Mais Fabrice Angély,
pour des raisons d'aller jusqu'au bout, notamment pour des raisons d'activité syndicale où, par exemple, la protection sociale n'est pas liée au fait d'être syndiqué pour la sécurité sociale, hein, pour les complémentaires, donc d'autres choses comme ça, pas plus. Donc voilà, ça explique cela. Et malgré tout, donc tout le monde remarque, y compris les syndicats, donc à l'extérieur, en Europe et à l'extérieur, qu'en France, on a des mouvements sociaux très forts, avec une syndicalisation faible. Et ça, de par l'activité...
Oui. Ceci étant dit,
donc il y a eu beaucoup
Fabrice...
de mouvements cet été, il y en aura à la rentrée.
Oui, mais Fabrice Angély...
est important aussi.
Fabrice Angély, ceci étant dit, le dernier mouvement social massif en France, soyons honnêtes, le dernier mouvement massif, c'était celui des Gilets jaunes, qui s'est fait sur déjà des revendications de pouvoir d'achat, le prix des carburants, c'était ça qui déclenchait la colère des Gilets jaunes. Et on le sait, à l'époque, ce mouvement a complètement transpercé, a complètement dépassé le mouvement syndical. Et d'ailleurs, je ne mets pas en accusation, là, je ne pointe pas du doigt la responsabilité des syndicats, simplement, voilà, ça a dépassé tous les syndicats. Et c'est, on l'a vu, on le sait, le syndicalisme, c'est important, puisque ce mouvement s'est fait en dehors de tout cadre, et il a fini dans la violence, et parce qu'il n'était pas encadré par les syndicats. Je termine. Aujourd'hui, c'est le dernier mouvement de masse qu'on ait eu. Vous dites que vous êtes mobilisés, je l'entends, il y a des grèves dans des entreprises, etc. Mais la crainte qu'on peut avoir, c'est que demain, il y ait un nouveau mouvement social en France et qu'une fois encore, les syndicats soient dépassés.
Et avec quelles conséquences? Je suis désolé, parce que alors, c'est pas le procès des syndicats qu'on est en train de faire aujourd'hui. Non, loin
je
de là.
Je le dis, oui, le syndicalisme, c'est important.
Tu as rappelé que le dernier grand mouvement social, mouvement social d'importance, c'était celui des Gilets jaunes, qui a débouché sur quoi?
Sur la violence.
Sur la violence. Mais est-ce qu'il y a eu concrètement des avancées sociales négociées, dealées, faites avec directement le pouvoir en place? L'inconvénient de passer par ces formes de grèves nature, des grèves sauvages, comme l'a répété Thierry pour ce qui se passe en Angleterre, c'est qu'on ait une excitation, une augmentation de la violence et des revendications individuelles, sans pour autant qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait une négociation avec le pouvoir en place, avec les pouvoirs publics. Les syndicats qu'on critique ou qu'on n'aime pas, qu'on dise voilà, faible taux de syndicalisation, faible empressement à lutter pour le pouvoir d'achat, les syndicats permettent ces négociations. Oui. On est dans la hiérarchie des normes, on est dans le dialogue, on est dans le passage par les corps intermédiaires. Quand les gens disent « Ah, mais on va pas écouter la CGT, il est faux parce qu'ils ne représentent personne », au moins ils sont là directement pour discuter, au moins ils sont reçus directement au ministère du Travail, au ministère de l'Intérieur.
Si je peux me permettre, que les syndicats, on la parle pour les syndicats, donc je veux dire, y compris, il ne faut pas confondre la représentation avec le nombre de syndiqués. On a des élections professionnelles, il y a plus de votants que les élections politiques, donc où il y a des légitimités syndicales. Là-dessus, le nombre de syndiqués est plus important que le nombre d'adhérents aux partis politiques. Voilà, je m'arrête à la comparaison. Maintenant, c'est pas qu'une question de violence. On parlait de grève des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était les ronds-points, c'était pas les grèves. Et ce qui est de nature, justement, à déboucher, parce que c'est pas la question de violence, c'est quel résultat. Ce qui est de nature à déboucher sur des résultats en matière de pouvoir d'achat, qui ne passe pas forcément par des augmentations de salaire, hein. C'est bien le rapport de force par la grève qui aboutit à une négociation, positive.
Alors Fabrice Angéry,
et c'est ce que nous avons, ce que nous mettons en place à la rentrée avec des déploiements, peut-être pas de partout. De partout, il y a des trous dans la raquette, avec des déploiements dans les entreprises.
Fabrice Angéry, vous nous l'expliquez à l'instant, Fabrice Angéry, secrétaire confédéral de la CGT. La CGT, elle est en présence dans les entreprises, dans nombre d'entreprises. Vous dites que vous êtes sur le terrain. Quels sont les retours du terrain, justement? Je vous pose la question. Là, on voit, parce que c'est l'actualité du jour, cette grève inédite en Angleterre. En tout cas, on ne l'avait pas vue depuis très, très, très longtemps contre la vie chère. Est-ce que vous y croyez pour la France? Est-ce que vous sentez cette grogne sur le terrain?
Non seulement on y croit, mais elle est nécessaire et on y travaille. Vous voyez, donc, et on y travaille parce que moi, je vois plus autour, on est dans les entreprises, on est aussi dans le monde réel, on discute avec les gens, etc. Je vois les enquêtes d'opinion qui sortent et personne n'est convaincu par la loi pouvoir d'achat quant à l'amélioration de la situation à venir. Je rappelle que pour une majorité de Français, avant la forte inflation, la fin du mois s'arrêtait le 10 pour grand nombre de nos concitoyens. Voilà. Et donc ça, c'est tous des éléments qui pèsent. Donc la colère, on la sent. Maintenant, il faut la transformer en mobilisation. Et c'est notre rôle. Et je rappelle, il y a quand même qu'on s'est réunis donc en juillet, on se réunira à la rentrée de septembre avec les autres organisations syndicales. Et c'est pour la première fois, ça je pense que c'est un élément important, que l'ensemble des organisations syndicales, donc 10, y compris avec l'ensemble des organisations de jeunesse, ont signé donc un communiqué qui parle des salaires, qui parle des pensions, etc. Donc voilà, on est en train de construire, ça se construit, donc un mouvement pour pouvoir être efficace, utile aux salariés, à la population, puisque deux Français sur trois, d'après donc une enquête qui vient de sortir, qui est réalisée donc le 8 et 9 août, se déclarent non convaincus et à juste titre par le paquet pouvoir d'achat. Donc, ça a été rappelé avant, hein, il ne faut pas voir que l'inflation, il faut voir aussi le revenu réel. Et ça, dans la vie, on le voit, le revenu réel, la précarité énergétique, etc., avec un gouvernement qui promet une rentrée difficile pour les Français, encore plus sur le plan économique et financier. Donc, toutes les raisons sont là. On constate des mouvements cet été. On se met en ordre de marche. Donc, pour avoir une rentrée dynamique, on n'a pas qu'une boule de cristal, mais il n'y a aucune raison de ne pas avoir de... Il y a toutes les raisons d'avoir des mouvements aussi forts que l'on a aujourd'hui dans notre pays, comme dans la Grande-Bretagne.
Merci Fabrice Angéry d'avoir été avec nous. Fabrice Angéry, secrétaire confédéral de la CGT. William nous rejoint au 32-16. Bonjour William.
Oui, bonjour messieurs, dames.
On est bonjour. En Seine-et-Marne.
Oui, tout à fait.
À Charmy, c'est ça, William?
Oui, actuellement, je suis en Espagne, mais bon...
D'accord. Bon, encore beaucoup de vacanciers. Et vous les écoutez depuis l'Espagne, tiens?
Oui, tout à fait.
Ah,
tout
c'est
à
bien.
Fait. Je vous écoute depuis
émission internationale.
Oui. Vous gardez vos bonnes habitudes. Je vous félicite, William.
Il ne faut pas perdre des bonnes habitudes.
C'est gentil.
Parce que moi, j'espère, en tout cas, que ce mouvement qui s'est amorcé en Grande-Bretagne va arriver chez nous en France.
Pour une vous faites quoi dans la vie, William?
Moi, je suis chauffeur de bus.
Vous êtes syndiqué?
Oui, tout à fait.
D'accord. Donc, vous espérez une rentrée sociale?
Je suis syndiqué, délégué syndical.
D'accord. Donc, vous espérez une rentrée sociale active?
Tout à fait, parce que, comme disait Fabrice Angéli, nous ne sommes pas du tout convaincus par le paquet pouvoir d'achat qui a été voté dernièrement au Parlement, parce que pour la bonne raison que dans ce paquet, il n'y a rien de concret pour le salarié. Il n'y a que des choses facultatives, aléatoires, qui sont mises à la disposition des patrons, à leur bon vouloir. Donc, s'il n'y a rien qui va changer le.
Mais excusez-moi, le bouclier tarifaire sur les énergies, la baisse de l'essence qui va intervenir à partir de la rentrée, ce sont des choses qui vont bénéficier
ça, Thierry,
à tout le monde, non, y compris aux salariés.
À tout le monde. Alors, c'est sûr, sur l'inflation, sur le niveau des prix. Quand tu parles de bouclier tarifaire, bouclier énergétique, c'est sur les prix. Là où il a raison, notre auditeur William, c'est qu'effectivement, il n'y a rien qui est fait pour les salariés directement, mais tout est laissé au bon vouloir des patrons. C'est qu'effectivement, le gouvernement a voté des primes, sauf que les primes sont décidées et
par les patrons.
William.
Exactement. Parce que pourquoi? Moi, je vais vous expliquer une chose. Depuis la Covid-19, depuis 2019 qu'il y a eu la Covid, il y a eu la prime Macron 1. La prime Macron 1, elle était de 1 000 euros. Moi, chez moi, dans mon entreprise, en tout cas dans le groupe pour lequel je travaille, je travaille pour un grand groupe de transport, Transdev en l'occurrence. Jamais on a touché la prime Macron à 1 000 euros. Elle est passée à 2 000 euros, on ne l'a jamais touchée. Aujourd'hui, ils ont augmenté le plafond à 6 000 euros. Mais si on augmente le plafond, mais on n'augmente pas l'assiette, ni la mettre à peut-être une partie obligatoire pour les patrons, pour qu'ils puissent en donner aux salariés, vous pouvez monter le plafond jusqu'à 10 000 euros. Mmh. Moi, si mon patron décide de ne rien me donner, il ne me donnera rien.
Bah, c'est
la preuve.
Ouais,
je n'ai jamais rien.
Ouais, ce que disait Pierre à l'instant, William, mais c'est exactement. Ça. Exactement ce que disait Pierre à l'instant, c'est que c'est vrai qu'il y a des décisions qui ne relèvent que de la direction patronale. Et quand
les primes sont exonérées d'impôts et de cotisations, très bien, ça devrait inciter les patrons à la verser, mais il y en a qui ne veulent pas le faire.
Maxime,
ne peuvent pas le faire.
Maxime est à bouillir. Qui peuvent pas le faire. Maxime est avec nous au 32-16. Bonjour Maxime. Et merci à William d'avoir été avec nous. Maxime, on est en Lot-et-Garonne cette fois, Villeneuve-sur-Lot.
Alors oui, bah, du coup je suis chauffeur poids lourd, donc là actuellement je ne suis pas à Villeneuve-sur-Lot.
D'accord, au boulot. Maxime, une rentrée sociale active, comme je disais, en tout cas chaude, vous la souhaitez ou pas?
Non, enfin, moi je suis un petit peu aberré, alors j'ai 23 ans, mais il y a des fois j'ai l'impression de vivre dans un monde complètement parallèle, dans le sens où quand j'entends le premier auditeur tout à l'heure, qui est à la limite d'insulter les gens parce qu'ils sont en vacances à Arcachon.
Bah, il les insultait pas, il était en colère.
Ouais, enfin, il était virulent, il les a pas insultés parce qu'ils passaient à la radio. Moi, le week-end dernier, ça tombe bien, j'étais à Arcachon. Et j'ai les moyens de dépenser de l'argent à Arcachon parce que je travaille beaucoup, j'ai un métier qui me prend du temps, je pars du lundi au vendredi. Et oui, bah ce week-end, j'étais à Arcachon et j'ai dépensé de l'argent. Parce que, aussi à côté de ça, je fais 200 heures dans le mois. Du lundi au vendredi, je ne suis pas chez moi. Aujourd'hui, on est dans une génération qui ne veut rien faire et qui voudrait gagner 5000 euros par mois. Donc à un moment donné, il faudrait aussi soigner ce paradoxe-là, quoi.
Il a 23 ans, Maxime, hein? Donc ça remet aussi un peu en cause les propos qu'on entend parfois sur cette jeunesse qui ne veut plus rien.
Il a raison, je veux dire, on ne peut pas être aussi caricatural et d'un côté considérer qu'on a envie de gagner 4 000, 5 000 euros par mois et se plaindre des menus à 25 ou 50 euros à Arcachon. Maintenant, si vraiment on veut aller dans le sens de notre premier auditeur sur la question des inégalités, on sait que depuis la crise, l'augmentation des revenus des 1% les plus riches, que ce soit en France ou dans tous les pays de l'OCDE, a été 3 fois plus importante que l'augmentation des revenus de l'ensemble de la population. Donc il y a une augmentation qui est évidente des inégalités. Je suis pas en train de faire le cliché des salauds de riches, c'est pas ça l'idée. Mais je peux comprendre intrinsèquement l'idée que des gens considèrent que face à l'augmentation des prix et de l'inflation, certaines catégories, eux, ne sont pas directement touchées par l'inflation.
Ouais, enfin, on est aussi le pays de l'OCDE où le salaire minimum est le plus important.
Oui, bien sûr.
On est aussi le pays de l'OCDE où le taux de pauvreté est le plus faible. On a quand même un État qui est c'est extrêmement redistributif. Donc, on a des matelas qui compensent ça. Alors, j'entends qu'il n'y a pas que l'inflation, mais on a aussi d'autres matelas qui soutiennent. Et la prime Macron, elle a été touchée par des centaines et des centaines de salariés. Alors, notre auditeur ne l'a pas touché. Je suis désolé pour son employeur qui n'a pas voulu lui verser, mais il y en a qui en ont touché des primes Macron.
Merci, Maxime, d'avoir été avec nous depuis Villeneuve-sur-Lot. En tout cas, il était sur la route, hein, parce qu'il est chauffeur poids lourd, mais il est originaire de Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. On vous a posé la question. Grève historique, inédite en Angleterre contre la vie chère. Est-ce que vous croyez à la même chose en France? La réponse, Mao.
Oui, 56% des internautes croient à la
même
chose en France.
Ça suffirait à foutre la pagaille, quand même. Mettre la pagaille.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.